Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour, voilà, je vous souhaite une bonne matinée à l'écoute du message de l'Évangile et je voudrais tout simplement que nous nous dirigions vers un texte dans le livre de la Genèse au chapitre 4. Nous allons faire cette courte lecture et en effet, tout cela nous parle de Caïn et d'Abel que j'ai titré tout simplement les frères de sang. Alors, allons-y, nous allons lire dans Genèse, je vous ai dit, au chapitre 4, une partie du chapitre 4, quoi qu'il en soit. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut trisérité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voilà pour notre lecture, notre situation dans ce livre de la Genèse. Alors nous avons tout simplement à travers cet épisode, la continuité de la chute de l'homme, c'est-à-dire de la désobéissance initiale d'Adam et Ève, et qui va déboucher sur la jalousie de ses descendants. De la jalousie à la haine, qui trouve tout cela leur aboutissement dans la mort violente, c'est-à-dire le meurtre tout simplement d'Abel. Il y a naturellement peut-être une réflexion à faire en ce qui concerne cet enchaînement tragique. Adam, nous pouvons dire, est le mauvais fils et Caïn, le mauvais frère, parce qu'il est le meurtrier de son frère. Surtout que viendra plus tard, des siècles et des siècles plus tard, cette parole qui rappellera la loi de Moïse et que Jésus reprendra quand il dira tout simplement « Tu ne tueras pas, tu ne tueras point ». Le premier foyer de l'humanité va donc connaître et ouvrir la voie à la vague incessante du sang sur la terre. On apprend qu'Adam a eu plusieurs enfants, c'est ce que nous rappelle le livre de la Genèse au chapitre 5, verset 4, vous vérifierez. Mais ici, notre attention se porte que sur les deux premiers fils, l'un Caïn, le deuxième Abel. Dès la première génération, toute l'histoire de l'humanité est contenue en germe. D'un côté Caïn, figure de l'homme religieux, qui ne compte que sur lui-même pour offrir à Dieu ses sacrifices et plus tard ses révoltes. Lui feront tourner le dos totalement à celui qui l'a créé, à son créateur. Et de l'autre côté, Abel, l'homme de foi, l'homme qui fait confiance à Dieu, qui s'approche de son créateur, pleinement conscient de son péché. Ève, nous est-il dit, nous l'avons lu, Ève enfanta Caïn et dit « J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu ». Quel dut être l'étonnement d'Ève à la vue du premier bébé homme. Elle et lui, c'est-à-dire Adam et Ève, ou Ève et Adam comme vous voulez, venaient directement de la main créatrice. Caïn signifie « produit », »,« acquérir », »,« engendrer ». D'ailleurs, quand elle donne un nom à Caïn, elle dit « Eh bien, je l'ai acquis ». En effet, avec la grâce de Dieu, avec, eh bien là, la pensée de Dieu. Appelé ainsi, dans l'espoir qu'il serait la postérité promise, cela nous est rappelé dans Genèse, chapitre 3 et verset 15, et je signale tout simplement ce qu'il nous est dit quand Dieu, eh bien là, maudit le serpent, le diable, disons les choses comme elles sont, et il dira donc au diable, Dieu dira au diable, je mettrai inimité, je mettrai combat, je mettrai la lutte, la guerre, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, alors celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est déjà en effet une préfiguration de ce qui se passera, eh bien, au calvaire. Donc nous avons dit que les hommes, enfin en tous les cas, on avait peut-être espéré que Caïn serait la postérité promise qui écraserait la tête du serpent. Hélas, Caïn, au lieu de détruire, et bien là, selon ce qui pouvait être envisagé, s'est allié avec l'adversaire, se faisant son instrument du mal. Abel, qui veut dire souffle, en raison probablement et bien de sa courte vie. Alors, donc, souffle, vanité, vapeur. Son nom évoque la désillusion. La vie hors d'Éden commence à faire sentir l'amertume des luttes et des souffrances ici-bas. Les deux offrandes, parce qu'il y a naturellement les deux enfants d'Adam et d'Ève, maintenant nous passons à un autre registre, eh bien, ils vont avoir à cœur d'offrir chacun une offrande, les deux offrandes que Dieu ne réclame pas apparemment, mais justement, eh bien, qui semble qu'elles aient été offertes par l'un et par l'autre suite à un sentiment spontané de reconnaissance, peut-être aussi pour combler, ou peut-être nous pouvons dire pour compenser la séparation établie par le péché entre Dieu et l'homme. C'est ce que nous avons lu, mais je voudrais le rappeler simplement dans ce chapitre 4 et au verset 3 et 4, il est dit ceci, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Alors, voilà, les choses sont présentées de cette manière dans notre récit. Abel était berger et Caïn était fermier. Abel offre un agneau, le meilleur de son troupeau. Caïn lui offre les fruits de la terre qu'il cultive durement. Pour Abel, son don ne lui coûte rien puisqu'il va prélever dans son cheptel, eh bien, un agneau, alors que pour Caïn, il s'agit de sa production, le fruit de la terre longtemps attendu et également le fruit de ses efforts. C'est l'emblème naturellement, eh bien là, du salut par l'effort, le mérite et les bonnes œuvres ou les œuvres comme l'on veut. Derrière ces deux gestes d'offrande, il ne faut pas oublier que les deux frères sont nés hors d'Éden, donc pécheurs, après naturellement cette séparation eh bien, de la créature d'avec son créateur. Et toute l'histoire qui se déroule ensuite se joue sur le fait de la conscience de leur état pour s'approcher de Dieu. La grande leçon à retirer, c'est qu'on ne s'approche pas de Dieu avec n'importe quelle disposition intérieure ou dans n'importe quelle disposition de notre âme, même avec les meilleures intentions qui soient. Il ne suffit pas de faire à Dieu un sacrifice convenable, il faut aussi qu'il soit accompli dans un état d'esprit convenable. Là est le but et là est le centre même de notre réflexion. D'ailleurs, je crois que nous pouvons y associer cette parole qui nous est donnée dans le livre des Romains, c'est Paul qui parle et qui dit naturellement eh bien, question, qui pose cette question quand il exhorte ou quand il recommande aux chrétiens que nous sommes aujourd'hui, eh bien, de pouvoir nous approcher de Dieu dans de bonnes dispositions. Paul dira ceci, « Je vous exhorte donc, par les compassions, c'est-à-dire dans l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Voilà la véritable offrande et voilà le véritable culte qui plaît à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable est parfait. Alors voilà, nous avons naturellement, et bien dans tout cela, et bien en quelque sorte le code qui ouvre la compréhension de cette démarche si ancienne, de cette histoire de ces deux frères qui sont des frères de sang. Voyons comment Caïn a fait. D'abord, il offre le fruit d'une terre maudite. C'est ce que nous dit Genèse, dans, au chapitre 3 et au verset 17. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cette terre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force et de peine que tu en tireras la nourriture, ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, etc. etc. » Donc, une terre maudite, comme si la nature, je dis bien la nature, entendons bien, pouvait être agréée de Dieu. Tout ce qui est naturel est maudit. Parce que, eh bien, cette désobéissance initiale, ce péché premier, eh bien là, en effet, eh bien, apporté une malédiction dans toute, à tous les horizons de la création de Dieu. Et nous voyons que, eh bien, cela lui est rappelé à travers qu'il n'y a pas d'illusion à faire, le monde est enfoui dans le péché, que l'homme est pécheur et qu'il n'y a qu'une seule rédemption, nous allons la voir d'ici quelques instants. Donc, tout ce qui est naturel est maudit et il n'y a que le spirituel, entendons bien, qui soit peut-être, qui peut être pris en considération, le spirituel. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça que l'évangile a été écrit après. Eh bien là, l'Ancien Testament, et il est bien donné ce nom, le Nouveau Testament, une nouvelle vie, et de nouveaux horizons, une nouvelle création, et nous pouvons naturellement multiplier eh bien, toutes les comparaisons. Et il n'a que le spirituel, donc, qui soit agréé de Dieu, et manifestement, Caïn n'avait pas la foi. Et on va comprendre pourquoi. Le premier point, c'est celui-ci. Le deuxième point, c'est que Caïn ignore que le péché le sépare de Dieu et que le seul point de réconciliation ne peut se faire que sur la base d'une effusion de sang pour ôter la malédiction. Son sacrifice est non sanglant. Alors, il pense être accepté en offrant eh bien, son offrande, qui est le prix du travail de ses mains et de la sueur de son front, avec le contentement secret que quelqu'un qui a fait des efforts, qu'il se dit, eh bien voilà, j'ai travaillé pour Dieu, j'ai fait ceci, Dieu a donné la terre, mais moi j'ai travaillé cette terre, et je lui offre les produits, les prémices, eh bien, de ce fruit de la terre. Dieu regarde. Et peut-être que Caïn pouvait se dire en lui-même, je suis fier de ce que j'ai fait pour toi, Dieu. Produit de la terre maudite à cause du péché, un sacrifice qui devient abominable. Peut-on offrir des choses mauvaises? Peut-on offrir des choses qui sont en effet en abomination eh bien, à Dieu par le fait même que ce ne sont pas des bonnes choses? Pauvre Caïn, ce que sa conscience aveugle ne pouvait pas lui révéler, eh bien, la foi peut justement, aurait pu, eh bien, lui ouvrir sa conscience. Alors, la foi, elle devait et pouvait lui montrer qu'il faut obligatoirement le sacrifice d'une vie pour pouvoir s'approcher de Dieu. Dès que les premières pages de la Bible, eh bien, nous voyons que la croix apparaît et cette croix prend toute sa signification, une signification universelle. Sans elle, pas de salut, pas de pardon, pas de réconciliation. Et c'est le cœur même eh bien, du message biblique, et là qui est véritablement exposé d'une manière formidable et magnifique à travers la deuxième partie de cette Bible, c'est-à-dire le Nouveau Testament, à travers Jésus à la croix. Si Jésus n'était pas monté à la croix, et s'il n'était mort à notre place, en victime expiatoire, comme l'agneau d'Abel, tout son ministère, toute sa venue sur terre, qui a été pourtant un ministère miraculeux, guérir, libérer, enseigner, parler, apporter, eh bien là le témoignage du ciel, n'aurait à ce jour aucune valeur pour nous sauver. Homme de bien, oui, certes, mais pas de rédempteur. Dans, là, nous avons un condensé de ce que nous dit, toujours Paul, dans les Éphésiens, et il dit cette parole, Éphésiens chapitre 2 et au verset 13, il dit ceci, mais maintenant, en Jésus-Christ, entendez tout de suite l'agneau qui était immolé, l'agneau de Dieu. Vous qui étiez jadis éloignés à cause du péché, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Le seul lien, le seul médiateur, la seule communication que nous pouvons avoir et que Dieu agrée, c'est Jésus mort à la croix, qui va être, emblématique d'un agneau immolé. Car il est notre paix, lui que des deux n'en a fait qu'un. C'est véritablement l'image de la réconciliation et qui a renversé le mur de séparation, car il est dit un peu plus loin, car par lui, par Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Retenons une chose, c'est que depuis Abel et Adam, depuis en effet Abel, Caïn, Adam, la première famille, nous avons une chose que nous devons comprendre, c'est qu'il y a eu une rupture, il y a eu une séparation. Et il nous est dit que le péché sépare et nous coupe de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu. Alors, nous avons donc à prendre en considération qu'il y a là quelque chose de prophétique à travers ce que nous sommes en train de dire sur ces deux frères, ces deux personnages qui sont en effet séparés par le sang, c'est vrai, le sang de l'un d'eux, et qui doit être réparé, cette relation doit être réparée, cette réparation va nous ramener justement à ce Dieu qui veut nous sauver. Sa mort seule a déchiré le voile de séparation. Toute approche de Dieu en dehors du sacrifice de Jésus est vain et inutile. C'est le culte de tous les Caïns de la terre qui révèle deux choses. C'est-à-dire que nous avions en effet mis l'accent sur Caïn l'incrédule, Caïn qui veut faire les choses par lui-même, Caïn qui veut prouver à Dieu que quelque part, même s'il est pécheur, il est bien quand même. Et puis il y a naturellement Abel qui lui va fonctionner uniquement par la foi. Il fait confiance à Dieu et ça c'est l'essentiel, c'est le principal. Donc nous avons dit, le culte de tous les Caïns de la terre à cause de deux choses. D'abord, l'ignorance ou volontaire ou involontaire de l'état de pécheur, c'est-à-dire se croire bien et se croire suffisant. Je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de pardon, je n'ai pas besoin là d'être sauvé par Dieu, c'est inutile. Et puis la deuxième chose, c'est l'ignorance de Dieu et de son caractère de sainteté, de justice et d'amour. Quelque part, l'un entraîne l'autre. Tout homme qui n'a que sa relation naturelle, et nous pouvons peut-être y ajouter que les relations naturelles, on pourrait l'associer à la religion naturelle, c'est-à-dire elle est spontanée, elle est innée, mais elle n'est pas spirituelle, elle est naturelle, elle vient de la terre. Alors cette relation naturelle, nous amène finalement à travers les siècles, et Caïn en particulier qui en est le promoteur, a fait des millions de disciples. L'effort pour être sauvé remplace la foi, le mérite remplace la grâce. Et c'est le culte de l'âme, c'est pas le culte de l'esprit, où Jésus dira, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui m'adorent, qui adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est tout à fait différent. Donc, le culte de l'âme et des faux systèmes qui ne font que souligner l'existence de deux sortes d'adorateurs qui se côtoient sans jamais pouvoir s'unir. Et nous voyons qu'à travers cette colère qui va opposer Caïn à Abel, cette colère restera, elle demeure, et il y aura toujours inimitié, il y aura toujours combat et lutte, rivalité entre les deux, et nous savons que c'est toujours la même histoire encore aujourd'hui. Le culte dicté par la reconnaissance, qui est l'expression du don de soi, qui s'exprime à travers la foi, avec la pleine conscience du péché, ça c'est Abel. Et Abel, quand il va offrir son agneau, spontanément il va offrir une vie, la vie d'un animal, avant que ce soit véritablement la vie d'un homme, Jésus-Christ, l'homme-Dieu naturellement, nous croyons que tout cela nous ouvre dans notre vie personnelle la pleine conscience du péché. Un homme qui se convertit, un homme qui se tourne vers Dieu, qui se tourne vers Jésus-Christ, et après avoir entendu la parole, donc, qui va lui communiquer la foi, il va se tourner vers le Sauveur, le Rédempteur, et il va prendre conscience immédiatement qu'il n'est pas juste, qu'il n'est pas bien, qu'il n'est pas pur, et qu'à l'intérieur de lui-même, eh bien, il y a le péché qui dicte sa loi. Une chose aussi qu'il faut souligner, c'est que le culte, qui par ses sacrifices méritoires, alors il s'agit naturellement de Caïn, par ses sacrifices méritoires ou valorisants, dispense du don de son corps, de son cœur. On donne pour faire l'économie de se donner soi-même. Voilà Caïn dans ses œuvres. Au travers Caïn et Abel, se dessinent les grandes lignes de l'histoire religieuse de l'humanité à venir. La vraie spiritualité de la foi et du formalisme religieux, où les hommes, se déclinant sous toutes sortes de manifestations, de toutes sortes de traditions, de toutes sortes d'habitudes, de toutes sortes de rituels, de toutes sortes de choses semblables, eh bien, en effet, on l'appelle, en effet, eh bien là, le formalisme religieux. La première est fondée sur le rachat par la mort d'une victime qui débouche sur la vie. Ça, c'est Abel. La seconde, Caïn, établie sur la conservation de la vie naturelle qui aboutit à la mort. L'un et l'autre. Et contrairement à ce que nous pourrons penser, c'est le meurtrier, celui qui va donner la mort à son frère, qui va mourir, et celui qui va mourir va avoir la vie. C'est exactement, eh bien là, l'inverse qu'il nous faut comprendre. Et tant qu'un homme restera dans l'illusion, eh bien qu'il est bien, qu'il n'a pas de péché, qu'il n'a rien à faire valoir devant Dieu pour, dans la pensée du Seigneur, eh bien nous savons que tous les Caïns du monde pourront bien vouloir s'approcher de Dieu, travailler et se fatiguer pour lui plaire, à la sueur de leur front, se procurer une offrande, le meilleur d'eux-mêmes. Et le meilleur de nous-mêmes, nous n'avons rien qui puisse véritablement eh bien, être trouvé en nous, qui soit le meilleur. Faire des vœux et rendre et prendre des résolutions, changer de manière, réformer notre caractère, être modéré, moral, pieux, prier, entendre les plus beaux sermons, eh bien, s'il n'y a pas la foi, cela ne sert à rien. Et je crois que tout cela, eh bien, est résumé à travers tout ce message, encore, je le répète, de la Bible. S'ils ne mettent pas entre eux et eux et Dieu un substitut qui paie à leur place, Abel et son agneau, il reste inacceptable. Et nous voyons tous les efforts humains qui sont faits pour être, en effet, eh bien là, des gens braves, des bons garçons, d'être, en effet, eh bien avec une moralité, avec toutes sortes de choses semblables. Il ne s'agit plus de faire, mais de croire. Et dans le livre du prophète Ésaïe, eh bien, nous avons, et puis dans le livre du prophète Amos, les choses sont bien expliquées et clairement expliquées. Ceci, en effet, eh bien, nous conduit à cela. L'Éternel, il nous est dit, porta un regard favorable sur Abel, et nous savons maintenant pourquoi, parce qu'il a agi dans la foi et dans la confiance, dans l'abandon de sa vie, manifesté à travers un agneau qui va payer le prix. Et puis, sur son offrande, mais il ne porta pas, il nous est dit, un regard favorable sur Caïn et son offrande, parce que Caïn, eh bien, représente de vouloir se sauver soi-même, de vouloir faire tous ses efforts pour aller au ciel, mais sans passer, eh bien, par la médiation du sang de Jésus-Christ, et qui, quelque part, c'est un désaveu de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a mis pour véritablement sauver les hommes. Voilà, eh bien, que le Seigneur nous bénisse pour ces quelques mots, et nous voulons croire que, eh bien là, nous avons ce résumé, je terminerai par ce verset, car Dieu a tant aimé le monde, voilà, un monde perdu, un monde égaré, un monde en révolte, un monde en révolte contre son Créateur, un monde en révolte contre ses semblables, à travers les guerres, à travers toutes ces choses qui sont là, eh bien, pour manifester le monde sous une forme ou sous une autre. Eh bien, nous voyons que Jésus est venu, que Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est pas croire en soi, croire dans ses propres forces, croire dans ses propres vertus, croire dans une prétendue sainteté, non, mais croit en lui, ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. Et je crois que, quelque part, il faut bien ajouter que si nous donnons notre vie, eh bien, nous pourrons, en effet, vivre éternellement. Mais donner notre vie, c'est pas de mourir, c'est véritablement mourir à soi-même. Et le contraire, eh bien, est prouvé que si nous voulons véritablement, eh bien là, connaître Dieu, nous rapprocher de Dieu, et que Dieu s'approche de nous, eh bien, il nous faut véritablement comprendre qu'il y a là quelque chose d'unique, quelque chose qui vient de Dieu, qui est le salut en Jésus-Christ, image, réalisation plutôt, eh bien, de ce que, en effet, Abel a offert et qui a été agréable à Dieu. Et je crois que le sacrifice de Jésus a été agréable à son Père céleste et qui nous vaut aujourd'hui que si nous croyons en lui, nous mettons notre espérance en Jésus-Christ, eh bien, nous sommes sauvés. C'est pas que nous pourrons être sauvés, que, eh bien, là, il y a quelque chose de beaucoup plus précis, c'est que nous sommes sauvés. C'est une conviction, c'est une assurance, c'est au fond de nous-mêmes une confiance inébranlable. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne sa grâce à travers sa parole que nous avons, eh bien, partagée ce matin. Merci à tous.